Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Campus Bordeaux. C'est Louis qui est là pour vous parler, pour vous faire passer un bon moment. On se retrouve aujourd'hui pour une interview, encore une fois, c'est vraiment trop cool. J'espère pouvoir faire un mois entier, un mois de mars complet d'interview. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous avez déjà pu entendre sur nos antennes. Je suis avec Tristan Archer. Comment tu vas?
Ça va très bien, ça va très bien. Un peu malade, mais on fait avec.
Ouais, je me rappelle la dernière fois que tu étais venu, t'avais un coquard à cause d'un match. Là, on te retrouve, t'es malade, c'est la totale.
Ouais, bah, on est humain, on n'est pas que catcheur, hein.
Mais ouais, c'est vrai, c'est les risques du métier. Avant, pour commencer, tout simplement, je pense que tu te rappelles peut-être de comment on a fait la dernière fois. C'est tout simplement démarrer par ton nom, ton prénom, ta profession, depuis combien de temps tu l'exerces?
Alors, Tristan Archer, 38 ans, catcheur professionnel, depuis 14 ans.
Depuis 14 ans. Et dis donc, et franchement, tu penses que tu pourras arriver à viser les 20 ans?
20 ans de catch? Ouais,
Ouais.
facile.
Facile?
Facile, facile.
Ouais.
Sur le corps, je suis bien. Le physique, je suis bien. Le cardio, je suis bien. Il n'y a pas trop de bobos. Donc, il n'y a pas trop de gros bobos.
Ouais.
Donc, ouais,
Il
facile.
me semble que t'as pas eu de grosses, grosses blessures, si?
Ouais, j'ai fait une commotion, j'ai fait une névralgie cervico-brachiale, où bah, j'ai été paralysé pendant 10 minutes du bras droit,
Ah oui.
totalement. Je sentais plus, je pouvais plus bouger tout ça, mais quelques désinsertions musculaires, quelques côtes cassées. Mais voilà, rien qui pourrait me stopper.
Rien de bien, bien alarmant pour ta carrière, quoi. Ok. J'aimerais commencer par une première question pour toi. Alors, c'est une question que j'ai trouvée ces derniers temps parce qu'il y a le film Iron Claw qui est sorti et je l'ai trouvé incroyable. Et j'ai vu que tu étais à l'avant-première avec Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Je voulais savoir déjà, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé du film? Et ensuite, comment tu as abordé le fait d'être invité pour une avant-première?
Bon alors, le fait d'être invité pour une avant-première, j'étais très content. C'est-à-dire que ce film, je voulais le voir. J'ai eu que des très bons échos de tous mes amis qui sont aux États-Unis. Donc je me suis dit, bah vas-y, hein, on y va, c'est bien. Et donc j'étais content. Après j'ai appris qu'il y avait Christophe et Philippe. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus, donc ça m'a fait doublement plaisir. Par la suite, sur place, ça s'est très bien passé. Il y a eu très bon retour de toutes les personnes qui étaient là, qui n'étaient pas du tout fans de catch, de base, et qui ont été saisies, qui ont eu, voilà, il y en a plein de toutes là, qui ont pleuré, qui ont vraiment compris la difficulté du métier, la difficulté de ce genre de vie. Donc, c'était très, très chouette. Moi, je me suis retrouvé dans plein de personnages du film, les moments de solitude, la tristesse, tout ça. Donc,
La dépression aussi qui est abordée.
les blessures, le temps sur la route, le temps loin de sa famille, le temps loin des gens qu'on aime. Donc, ouais, c'est un film qui est vraiment très poignant, très réel, tiré de faits purement réels. J'ai trouvé très bien monté, j'ai trouvé Zac Efron incroyable,
Ouais, exceptionnel.
vraiment exceptionnel. Et c'est même pas un film pour les fans de catch. Le catch, c'est 10%, ça sera un autre sport, ça sera la même chose. Donc, c'est vraiment plus sur les relations humaines entre frères, les effets de la gloire, les effets de la descente un petit peu de popularité, les effets du travail qui paye pas forcément, des sacrifices qui payent pas forcément. Ça parle de plein de sujets qui sont très durs, et ça a été très bien écrit et ça a été très bien amené. Et moi, je trouvais vraiment que ce film était une perle, quoi.
Ouais,
Incroyable.
moi j'ai vraiment pas vu le temps passer hein, quand je suis allé le voir. J'étais vraiment vraiment impressionné bah déjà par les performances des acteurs. Moi, Jeremy Allen White, il m'a vraiment c'était incroyable, exceptionnel. Et puis sincèrement, tout l'effort qui a été mis pour la production et tout, on sent, tu vois, que Chavo Guerrero, MJF sont passés par là et ont vraiment permis aussi cette authenticité. Il y a aussi le vrai Kevin Von Erich qui était à la production aussi, on sent qu'il est là. Enfin, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de respect qui a été mis sur l'histoire, la famille, le catch. Enfin, vraiment, c'était trop trop cool. Et le fait que tu sois un avant-première et etc. t'a permis aussi à des non-initiés de découvrir un peu plus l'envers du décor entre guillemets, on va dire. Je suis tombé sur un YouTuber qui justement était là à l'avant-première et parlait de vous trois et qui vraiment était super content que vous soyez là parce qu'il a vous a répondu à toutes les questions. Il a réussi à mieux comprendre l'envers du décor et tout, donc vraiment ça a apporté une plus-value. Voilà. Je voulais venir sur quelque chose. Du coup, on voit en ce moment que le catch est de plus en plus populaire en France. On le voit de plus en plus qu'il y a beaucoup plus d'engouement. notamment grâce en partie grâce aux The Event et en partie aussi parce que la WWE va se diriger en France pour Backlash 2024. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que t'en penses de ce grand événement.
C'est incroyable. C'est une première en France. Combien de pays diffusent du catch de façon assez régulière et ont toujours pas eu ce genre d'événement. On est quand même sur un truc exceptionnel.
Puis en plus, clairement. C'est pas que SmackDown, c'est un pay-per-view, quoi. C'est ça qui est dingue.
Ça, il y a SmackDown et un pay-per-view. SmackDown, il y a plein de pays qui les ont eu, les pay-per-view. Voilà, il y a l'Angleterre, le Canada.
L'Allemagne, du coup, maintenant.
Et la France, l'Allemagne va passer après nous. C'est quand même costaud, tu vois. Donc, c'est vraiment. Bon, après, je crois que l'Allemagne, c'est SummerSlam qu'ils auront.
Non, ils auront Bashing Berlin.
Ah ouais.
Non, SummerSlam, je crois que. Alors, je sais plus où c'est, mais non, c'est aux États-Unis, je crois.
Non, je crois que c'est SummerSlam parce que c'était l'été, mais ouais, non, c'est pas SummerSlam, mais quand même, ils ont quand même un pay-per-view aussi, après nous. Donc, c'est.
On est les premiers. Il y a l'Australie avant, mais on est les premiers en Europe.
Ouais, c'est ça. Ben non, il y a l'Angleterre avant nous.
Ah oui, il y a l'Angleterre, ouais. Mais cette année, en tout cas.
Ouais, cette année. Hein.
Cette priorité aussi sur un peu tout le monde. Justement, est-ce que tu penses que un événement comme ça peut amener beaucoup plus de personnes à découvrir, pas que la WWE, à découvrir justement la BZW, à découvrir l'APC, à découvrir le catch français?
Aucune idée. Les gens sont pas très curieux. Donc, si on tombe sur des gens curieux, oui. Si on tombe sur des gens pas très curieux, bon, bah, ça va pas changer grand chose. Après, là, pour moi, être fan de catch, j'ai vu le prix des billets, c'est.
Ah, c'est cher, hein. C'est cher.
Là, c'est exceptionnellement cher. Et puis, j'ai vu que c'était connu combo, donc il n'y avait pas le choix, en fait.
Bah là, c'est demain. Demain, ils ouvrent des places uniques. Mais bon, ça va partir en 30 secondes, quoi. C'est des places uniques pour SmackDown et ou Backlash, mais ils ouvrent à 10h demain, mais faut être connecté à 9h, je pense, parce que sinon, t'en auras pas une.
Ah ouais.
Moi, je vais essayer. J'ai pas encore eu mes places pour Backlash, malheureusement. Je vais tout donner demain, mais ça va être galère. Hein.
Ouais, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Hein.
Puis les prix, les places à 100 balles, elles sont parties comme ça. C'est vraiment, impressionnant.
Ah, bon. C'est bien.
Tant mieux, bien, tant mieux, ça va sold out.
Là, ça se remplit et que peut-être ils reviendront.
Mmh. Ouais, franchement, bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Hein, imagine, il y a un deuxième événement. Déjà, le fait que les house shows soient revenus, déjà, c'était une bonne nouvelle, un truc dans la bonne direction. Mais là, le fait qu'il y a un pay-per-view... Là, il est qu'à Lyon, mais imagine si on a un jour, je sais pas, le Parc des Princes ou le Stade de France, ça va être exceptionnel. Hein.
Ah bah, s'ils font le Stade de France un jour...
On va se déplacer, hein.
C'est incroyable, hein.
Ah, on va les regarder, hein. Bah, justement,
bien sûr. Ils pourront faire des places pas chères.
Ah bah oui, ça... Alors le Stade de France, ça va être chaud, mais écoute, hein, on peut toujours espérer. Moi, justement...
Le Stade de France, ils pourront faire des places à 40 balles. Moi, j'ai été voir un match de foot de l'équipe de France pour 30 balles, 40 balles.
Ah, ça va.
Ah oui, mais t'es pas très près.
Oui.
Ils ont des grands écrans, ils ont des machins, là. Le Stade de France a les équipements nécessaires aussi, donc... Ouais. Ils peuvent se permettre de faire des places un peu moins chères, un peu moins bien placées, parce que de toute manière, au final, tu vois tout sur les grands écrans.
Oui.
Et tu vis l'ambiance.
Oui, c'est juste l'expérience du public, voilà, et tout. Je suis d'accord, hein. Clairement. Du coup, enfin, je voulais savoir justement, on parle de Backlash en France, et je voulais justement te poser une question sur le développement du catch en France. On parlait très vite fait du fait que voilà, il y a de plus en plus de stars qui passe faire un coucou. Je me rappelle, alors à l'époque, il y avait eu Pete Dunne. Maintenant, on est sur de plus en plus de gros noms. Qu'est-ce que tu penses, toi, du développement du catch en France ces dernières années?
Ben, moi, je pense que c'est un travail qui s'est fait depuis plusieurs années. C'était du bouche à oreille, c'était des gars qui sont venus en France, qui étaient le marché français, qui fait les shows en France. Et dès que leurs potes sont contactés et on leur pose des questions par rapport à la qualité du catch en France, bah, du coup, ils sont obligés de dire oui. Ils sont obligés de dire, ouais, c'est incroyable. Et les mecs, ils sont obligés de dire, bon, bah, ok, on y va, tu vois. Tout simplement. Moi, si je veux aller bosser dans une promotion que je connais pas, je regarde qui est passé par la promotion, j'envoie un message si je le connais, et je lui dis, bah, frérot, c'est comment? Il me dit, c'est incroyable. J'y vais. Il me dit, c'est nul. Ben, j'y vais pas, tu vois.
Ouais, je vois. C'est de la réputation, en fait.
Bah là, Ali, je pense qu'il a eu quelques bons feedbacks par rapport à la PC. Il a dit qu'on y va.
Ouais, Ali, il a sold out. Match contre Aigle Blanc.
Ouais.
Toi, t'as eu un match avec, avec Kushida. Il y a eu aussi, bah, à toute fin de l'année dernière, t'as eu un match contre Will Ospreay aussi. Ça, c'était énorme. Ouais. Le match qui a été noté sur Cage Match, en plus. Ça, c'était trop, trop cool. En plus, c'est une bonne note, hein. Le match, moi, je l'ai regardé, le match, je l'ai regardé en direct. Il était super. Sincèrement, j'ai trop kiffé. J'ai cru que t'allais gagner en plus.
C'est fait exprès. En plus, on a bien travaillé.
Ah, j'étais à fond. Justement, vu qu'on parle de ces allers-retours, de ces stars outre-Atlantique, etc., je voulais savoir, est-ce qu'il y a, selon toi, une vraie différence de style entre le catch européen et le catch outre-Atlantique ?
Non, enfin, nous, notre catch est un peu plus physique. Aux États-Unis, il y a beaucoup moins de contacts, c'est un peu plus calme, mais c'est vrai que nous, ici en Europe, on a un contact, on a des contacts et des qui sont plus costauds. Quoi.
Ok. Est-ce que le travail à gauche ou à droite, il change aussi ou c'est pareil partout ? Il me semble
non,
que c'est pareil partout.
Non, à gauche. Okay. Il y a que les Mexicains qui travaillent à droite.
Ok, ok. Parce que ouais, je me suis posé la question, j'en avais entendu parler de ça. Et ça, je me disais peut-être que ça change, mais d'accord, pas du tout. Je voulais aussi, là pour le coup, parler de toi dans cette interview. On en a parlé déjà un petit peu la dernière fois. Je voulais que tu me dises tout simplement quels sont selon toi peut-être les trois meilleurs moments de ta carrière.
Oh là là.
Ah, je te demande de choisir. Je sais que c'est pas facile, mais...
Ospreay.
Tout récent, il est énorme.
Mon premier match à la VVE.
Ouais.
Contre Cédric Alexander.
C'était lors du CWC, ça, on est d'accord. Tournoi Cruiserweight. C'est lors du tournoi Cruiserweight.
Ouais, en 2016, ouais. Et mon trip au Japon l'année dernière.
Ouais, ça, bah, c'est parfait. C'est vraiment, c'est parfait parce que tu me fais la transition. Nickel. Justement, je voulais te parler de ce trip-là que t'as fait au Japon. Parce que j'ai vu tes stories Instagram, évidemment. J'ai regardé un peu ce que tu faisais. Je voulais savoir un peu comment t'as ressenti ça. Comment ça s'est passé là-bas? Raconte-nous un peu, mets-nous dans les coulisses.
C'était incroyable. Pour moi, le Japon, c'est mon pays de cœur.
T'es un grand fan d'animé, je crois.
Ouais, mais pas que. Même la bouffe, tout ça, de base, j'étais très fan aussi. L'architecture, tous les temples, le bouddhisme, même si je suis pas croyant, je trouve que c'est une belle forme de croyance. Je trouve qu'il y a plein de principes qui sont très intéressants. En fait, arrivé sur place, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. J'étais apaisé tous les jours. Il n'y a pas de cris, il n'y a personne qui se bagarre, personne qui t'agresse, personne qui te vole. Tout le monde fait la queue, tout le monde attend, tout le monde est poli, tout le monde dit bonjour.
Énorme différence, tu vois, ça doit choquer. C'est... Hein.
Ouais, mais en fait, ça devrait être comme ça partout, de base.
Oui, je suis d'accord.
On est tous censés être bien polis, on est tous censés être bien élevés. Ils sont pas meilleurs que nous, ils sont pas plus intelligents que nous, c'est les mêmes gens que nous, hein. C'est juste que nous, ici, c'est perdu. Maintenant, on double, on se pousse pour rentrer dans les métros. Là-bas, il n'y a personne qui pousse pour rentrer dans le métro. Il y a une queue. S'il y a du monde, il n'y a pas de monde, tu vois.
Ouais, on se bouscule, on se parle mal, on s'insulte. C'est sûr qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Tous mes amis, par exemple, qui ont pu réussir à faire un voyage au Japon, m'ont dit la même chose. C'est que tu sens que là-bas, tout ce qui est censé être normal, ça se passe au Japon, tu vois. Tous les comportements sociaux, normaux et tout machin, ils se retrouvent tous au Japon. Et quand tu reviens en France, tu te dis, mais waouh, mais c'est bizarre, quoi, tu vois. Vraiment, tout le monde m'a fait le même retour par rapport au Japon. C'est incroyable. Puis, je suppose aussi que l'expérience catch-esque qui était au même niveau.
Oui, bah oui, j'ai un style de catch assez japonais, donc forcément, moi, je me suis senti très à l'aise. J'aime beaucoup quand on prend son temps, j'aime beaucoup quand les mouvements de l'impact, j'aime beaucoup quand on laisse le temps à la personne de vendre les coups, tout ça. Donc, franchement, moi, je me suis régalé.
Ouais, t'as vraiment le sentiment de vraie confrontation, quoi. C'est ça qui est trop cool. Est-ce que, je voulais savoir si, bah, justement, t'avais des catcheurs japonais qui t'ont inspiré pour certains moves ou pour ton personnage ou...
J'ai pas réelle inspiration, soit du côté japonais ou... Outre-Atlantique ou anglais ou peu importe, moi je me cite de catch à moi. Après, les catchers japonais, je respecte beaucoup, il y en a plein. Hein. Il y a une liste qui est incroyable et qui grandit déjà de jour en jour au fur et à mesure que je découvre des gens du circuit japonais. Par exemple, je vais faire, le main event contre Tatsuki Sekimoto que j'avais rencontré il y a quelques années en France. C'est un vrai honneur parce qu'il est extraordinaire. C'est un catcheur qui est sous-coté, mais qui est tellement incroyable.
Non, franchement, c'est le roster là-bas, il devait être dingue. Tu pouvais travailler avec tout le monde, ça devait être incroyable. Et donc, du coup, moi, je voulais du coup te poser une dernière question avant de te laisser partir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024?
Aucune idée, que je reste en bonne santé,
oui.
Que je continue de pouvoir performer à ce niveau de performance malgré l'accumulation des années et des blessures,
okay.
Et que je continue à m'amuser. La semaine dernière, à Bodzé, je me suis éclaté, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir dans un match. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que 2024 sera une bonne année. C'est tout.
C'est...
Voilà, la santé, c'est vraiment tout ce qui compte.
C'est tout ce qu'on te souhaite, Tristan. Où c'est qu'on peut te retrouver prochainement, là?
Oh, yeah. Tu me poses des questions. je crois que je suis à la VXV samedi. Après, je suis la semaine prochaine. Je suis à la SACC dans le nord de la France. La semaine d'après, je suis à la RIX en Bretagne. Et c'est pas mal déjà. Je connais mon mois de février. C'est déjà pas mal.
Ah, quand même, hein. T'as un petit mois de février chargé. Et en tout cas, on te souhaite que tout se passe bien.
J'ai encore 5 dates à venir là. Ça fait 6 en tout, ce mois-ci.
Il m'a dit donc. Eh ben, on te souhaite que tout se passe bien. On espère que tu vas gagner tous tes matchs. Bon, je me fais pas trop de soucis. À mon avis, tu devrais t'en sortir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tristan, d'avoir à nouveau accepté de venir à l'émission. Et si ça, et tu commences à avoir une chaise à ton prénom, là.
Un petit coussin avec mon prénom, tout ça, c'est ça. Sympa.
Un petit goodies Radio Campus Bordeaux. Et puis, eh ben, si tout va bien, on se retrouve à l'année prochaine.
Exactement. Pas de problème.
Allez, merci beaucoup, Tristan.
De rien.